Jeudi 15 août 2024, il est 17h à Niamey. Le journal vous est présenté par Assoumana China. Une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort, d'autres sont portées disparues. Le drame est survenu suite au passage des eaux de Kori dans le nord de la région d'Etawa. Dans ce journal, nous irons à Difa pour en savoir plus sur une information sur l'alerte précoce et les réponses aux urgences qui viennent de s'achever. Le magazine de ce jeudi parle des conséquences de la fumée issue du brûlage des déchets plastiques sur la santé humaine et l'environnement, une pratique courante à Niamey. Au moins 53 personnes décédées et plusieurs autres portées disparues dans le Kori de Garin Ali, situé à 70 km au nord de Tawa, a indiqué le gouverneur de la région. Ce drame a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 août 2024 suite à des fortes précipitations enregistrées dans la zone et qui ont emporté les deux véhicules à bord desquels se trouvaient ces victimes. Pour la plupart des commerçants de la ville de Tawa et du village de Taza et Ingawan. Pour faire face aux noyades des enfants dans la commune de Burning-Kwandi, l'administrateur délégué de la ville a lancé un appel à la population de son entité administrative. En effet, les mares et les rivières sont très bien servies par les eaux de pluie et plusieurs enfants passent leur temps dans ces eaux. Pour plus de précisions, écoutons Suleiman Arzika, administrateur délégué de la commune de Burning-Kwandi, au micro de Assoumane Moussa Arzika.
Ça fait 4 à 5 jours que le cours d'eau de la Maja est arrivé. Après plusieurs années d'absence, grâce à Dieu, le cours d'eau est là, dans le département de Kwani. J'attire l'attention des parents de ne pas laisser leurs enfants aller se baigner dans la Maja. Il y a beaucoup de risques. Le premier risque est que la Maja peut emporter les enfants. Le deuxième risque, c'est la présence des parasites et des maladies. Les enfants peuvent boire cette eau ou se baigner. Il y a vraiment le risque de contamination.
Un atelier de renforcement des capacités des communautés de base de 6 communes de la région de Difa s'est tenu du 13 au 15 août 2024, entrant dans le cadre du processus d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Écoutons le formateur Issaka Mada Abdelaziz, technicien Watch à l'ONG WHH au micro de Guidi Abdraman.
Nous sommes là, c'est pour vraiment sensibiliser les communautés de base et pour tous ceux qui rentrent dans le processus d'alerte précoce et la gestion des urgences et des catastrophes. Ça concerne 6 communes de la région de Difa, notamment Mayene, Difa, Gueskérou et la commune de Kablewa, de Gingimi et Chetimari. C'est pour 3 jours. Nous sommes actuellement dans une période hivernale avec la forte pluviométrie qu'on est en train d'enregistrer, avec son lot de conséquences, des pertes en vie humaine, des pertes en matériel. Vraiment, il y a des mécanismes qui sont là, mais dont parfois les gens ignorent ou bien les gens ne s'approprient pas ces réflexes-là. Donc ce genre de cadre-là, c'est pour vraiment rappeler aux gens que les cadres sont là et que le processus est là. Ça peut aider à atténuer les conséquences de ces catastrophes.
À Matamey, dans le département des Kanti, région des Andes, la situation agricole s'annonce sous de bonnes auspices. En effet, certains acteurs ont même commencé la commercialisation de certains produits comme le niébé. Cependant, les agriculteurs font face à des vols dans les champs par des personnes prétextant chercher des herbes pour leurs animaux. Voici la réaction de quelques-uns d'entre eux au micro de Habou Serki Saleh.
Le problème qui dérange le plus les gens, surtout les agriculteurs, c'est ce phénomène de vol. Il y a des individus qui partent dans les champs tôt le matin ou tard dans la matinée pour la quête de niébé frais. Ça, c'est vraiment notre problème. Par rapport à ces vols, j'interpelle les gens d'avoir peur du Dieu.
Il y a des gens qui ont commencé à voler nos cultures, notamment l'arachide. Le problème est qu'elle n'a même pas fini de mûrir. On vient nous informer que ces enfants commettent des dégâts dans nos champs. Nous partons pour attirer leur attention. Des fois, nous pensons que nous n'avons pas bien fait en leur parlant. Surtout, il arrive que c'est un de nos parents qui commet ces dégâts. C'est compliqué. Certains enlèvent pour manger. Ce n'est pas le cas pour d'autres.
À Niamey, il n'est pas difficile d'avoir le double de sa clé de maison, voiture ou moto en cas de perte. Il faut cependant noter que la confection de ces clés s'est fait dans le strict respect de la loi. Notre reporter Montari Mohamadou s'est intéressé à la question. Voici son reportage.
Assis dans son atelier, marteau à la main, tout près de lui, des clés et contacts de véhicules sont exposés. Cela fait 40 ans que Amadou Dansounsou exerce ce métier de confection des clés des voitures et motos pour ceux qui ont perdu les leurs. Il explique la procédure qu'ils suivent.
Tout celui qui veut une reproduction de la clé de sa voiture ou de sa moto, il doit nous présenter obligatoirement les papiers qui montrent que la voiture lui appartient ou le permis de conduire. C'est en ce temps-là que nous allons partir voir la voiture et on commence la procédure de la reproduction de la clé.
Conscient du fait que des personnes mal intentionnées peuvent faire un autre usage de ces clés qu'il duplique à son niveau, pour parer à toute éventualité, Amadou collabore avec la police judiciaire depuis des années.
Depuis l'ancien président Feu Sen Kounché que nous travaillons avec la police judiciaire. Si le client arrive ici et que nous constatons quelque chose d'anormal, nous allons lui mettre des menottes et le conduire à la PJ. Là-bas, il va s'expliquer.
Moussa Idé, qui attendait qu'on finisse de lui confectionner la clé de sa voiture, dit être fier du service.
Moi, comme c'est ma voiture, quand je suis arrivé, je les ai présentés tous les papiers et ils ont commencé le travail. Ils savent bien faire leur travail. À chaque fois, je repars satisfait.
Ces métiers exposent à des risques. Il faut donc la prudence pour éviter l'irréparable.
Un reportage de Montari Mohamadou rendu par Alamine Wacher. Pour partager les offres et les demandes d'emploi aux demandeurs, en particulier les jeunes, l'Agence nationale de l'emploi ANPE a organisé ce matin une journée d'information et de sensibilisation sur ces offres. Plus de précisions avec Abdoulaye Samabi, conseiller technique du directeur général de l'ANPE au micro de Mariam Adé.
L'activité s'inscrit dans le cadre de la journée de sensibilisation des employeurs sur les offres de services de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, qui est un cadre en tout cas qui va nous permettre de partager avec ces employeurs et ces demandeurs d'emploi des offres qui existent à notre niveau en termes justement de gestion de programmes d'emploi et au-delà aussi en termes en tout cas d'accompagnement et des autres services qui leur sont dédiés. Donc l'objectif attendu à la fin de l'activité, c'est que les employeurs puissent faciliter aux jeunes demandeurs d'emploi l'accueil en entreprise afin de les permettre d'améliorer leur employabilité et de pouvoir se fixer justement dans le marché du travail.
Les activités génératrices de revenus sont une réalité dans le département du Nguingimi. En effet, les femmes se déplacent au Nigeria pour payer des produits qu'elles viennent revendre au Niger. Ces femmes se retrouvent dans ce commerce et espèrent un jour le développer pour concrétiser leur autonomisation. Suivons cette commerçante interrogée par Maina Abdoulaye.
Je vends du sumbala, des feuilles de baobab, du paprika et de la tomate. Je les commercialise de Gachou à Nguingimi et après avoir vendu, je repars me ravitailler. Nous payons le sac de paprika à 120 000 naira. La tasse, on la paye sur place à 20 000 naira et on la revend à 22 000 naira. Les feuilles de baobab, 120 000 naira. Et nous revendons la tasse à 2 000 naira. Le sumbala, on le paye à 5 000 naira pour le revendre ensuite à 6 000 naira la tasse. La tomate, on la prend à 150 000 naira et on revend la tasse à 6 000 naira. Nous trouvons de quoi subvenir à nos besoins, car depuis que je me suis lancé, je m'en sors. Dieu merci, depuis que j'ai commencé cette activité, je n'ai eu aucun problème.
La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, en collaboration avec plusieurs structures du Niger, ont lancé à Ayeru, région de Tillabéri, une caravane de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. C'est l'occasion de faire adhérer toute la population dans la recherche et la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Suivant à ce propos, M. Sidi Mohamed, président du Conseil national de la jeunesse, il est interrogé par Alamine Ouachar.
Pour nous, il est très important de pouvoir sensibiliser nos frères, nos amis jeunes, pour pouvoir aider l'État, mais aussi nos forces de défense et de sécurité, à pouvoir aider et juguler cette question de sécurité, parce que nous sommes tous victimes de cette insécurité, parce qu'avec cette insécurité, aucun développement n'est possible. Les ressources qui devront être destinées aux investissements pour les jeunes sont orientées vers l'insécurité. Donc pour nous, il est important qu'on contribue à ce que l'insécurité soit en tout cas jubilé, et c'est possible avec l'accompagnement, avec la mobilisation des jeunes. Et comme vous le savez, le combat contre l'insécurité n'est pas seulement l'apanage de l'armée ou bien des militaires, c'est tout le monde.
Les responsables de la société Somida et l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tchirozérine ont mis en place un comité permettant de faciliter le recrutement des jeunes de cette zone pour la société Daza. Écoutons l'administrateur délégué, adjudant-chef Mohamed Abdraman, il est au micro de Ahmed Felan.
Ce comité est mis en place pour servir d'interface entre les communautés et la société Daza dans le cadre du recrutement de la main-d'œuvre locale. Donc ce comité est composé de 7 membres, donc 7 points focaux qui sont désignés par les chefs de village qui sont dans les rayons de 30 km de part et d'autre de la société Somida. Donc en dehors de ces 7 points focaux, il y a 2 membres de droit, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tchirozérine et celui de la commune rurale de Dana, plus un représentant de la société Somida. Donc ça, c'est les 10 membres qui composent ce comité-là de communauté de Dasa. La mission qui incombe à ce comité-là est de procéder à la répartition entre les chefs de village de la main-d'œuvre locale requise soit par la société Somida ou ses sous-traitants. Soumettre à la société Somida les urgences de la population.
Nous arrivons à présent à la partie magazine de ce journal. Niamey, capitale du Niger, est régulièrement enveloppée par des nuages de fumée noire. Ces fumées proviennent du brûlage incontrôlé des déchets plastiques, une pratique courante qui affecte non seulement l'air que nous respirons, mais aussi la santé des habitants et l'environnement. Le reportage de Habiba Ahmed.
Ce sont les dépotoirs qui sont les plus souvent utilisés pour brûler ces déchets. Ces lieux sont malheureusement devenus des foyers de pollution constante. Les riverains exposés quotidiennement à cette pollution voient leur qualité de vie se détériorer. De plus en plus, ils prennent la parole pour dénoncer cette situation intenable qui menace leur santé et celle de leur famille.
Dès que l'odeur de la fumée commence, on ne peut plus vaquer à nos occupations. Même si on n'est pas asthmatique, on ne peut pas supporter l'odeur de cette fumée. Elle est trop forte. On veut quelqu'un qui peut nous aider avec cette situation, parce qu'elle a des conséquences.
Les gens qui viennent déverser ces déchets, ce sont eux qui brûlent des câbles pour en tirer les fils de fer. Il y a aussi d'autres qui amènent des pneus usés pour brûler. Ça nous dérange vraiment. On a beau parler, mais c'est toujours le même problème. On va se réunir à la mosquée pour prendre une décision que nous allons présenter aux autorités pour qu'elles trouvent une solution.
Ces fumées noires qui s'élèvent des dépotoirs de Niamey ne sont pas seulement une nuisance visuelle. Elles représentent un danger silencieux pour la santé, selon Dr Omar Ibrahim, un pneumologue.
Il va développer le malade de céphalée, c'est ça le mot de tête, de troubles de comportement, des vertiges, des troubles visuels, des douleurs abdominales, même des manifestations cardiaques comme l'infarctus du myocarde. Sur le plan respiratoire, on précise surtout la toux allergique, la toux grasse, la toux sèche, mais aussi à long terme la mortalité des patients parce que ces oxydants sont aussi cancérigènes.
Au-delà des effets sur la santé humaine, le brûlage des déchets plastiques à Niamey a des conséquences dévastatrices pour notre écosystème. La colonelle Bukarikura Yagana, directrice générale adjointe de la Direction générale de l'environnement et du développement durable au ministère de l'Hydraulique, nous éclaire sur la manière dont ces fumées toxiques polluent l'air, contaminent le sol et l'eau.
Il y a le méthane qui peut se dégager, il y a le gaz carbonique et ces gaz-là peuvent être à l'origine du réchauffement climatique. Ça peut amener aux inondations, des troubles d'habitat. Quand on brûle les déchets, il y aura des cendres et d'autres particules qui se déposent. Ils peuvent contaminer le sol. Et quand le sol est contaminé, ça peut aller jusqu'à la contamination de l'eau.
Le brûlage des déchets plastiques à Niamey est une pratique aux conséquences désastreuses.
C'était là un reportage de Habiba Ahmed, relaté par Mariam Adé. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce Airtel gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store.